Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV, les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter et je suis très heureuse de retrouver l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Les Russes sont-ils plus doués que les autres avec un clavier et une souris? Sont-ils meilleurs codeurs, meilleurs connaisseurs des illégales profondeurs du web? Meilleurs concepteurs peut-être de virus et autres attaques informatiques? Ou sont-ils plus simplement encouragés à cela? Enquête sur une nation étrangement laxiste et tolérante avec les cybercriminels. Mais si la Russie laisse faire, c'est qu'elle y trouve sans doute son intérêt. C'est que ces pirates numériques constituent une potentielle armée de l'ombre pour le gouvernement et ses services secrets. Des journalistes français ont fouillé la zone grise où se côtoient délinquants et officiers, intérêts mafieux et intérêts d'État. Une enquête très tarabiscotée dans sa forme, c'est dommage, mais on va en reparler. Parce que les témoins qu'elle parvient à mettre en scène s'avèrent d'une exceptionnelle qualité.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Étienne Huvert.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, le film est diffusé sur Arte mardi soir, il s'intitule Les nouveaux mercenaires russes. On va en dire juste un mot sur cette forme qui moi m'a un peu rebuté, mais vous expliquez très bien pourquoi vous avez fait ces choix-là. Je précise que vous co-signez avec l'excellent Boris Razon Les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes et que ce livre est sorti aux éditions Stock. Voilà, c'est la base de votre enquête que vous avez ensuite portée à l'écran. Alors évidemment que c'est très compliqué de porter cela à l'écran puisque vous naviguez dans un milieu totalement clandestin avec que des gens au pseudo accouchés dehors, des masques ridicules, tout le monde est dans l'anonymat et la profonde illégalité. Donc on comprend bien que tout l'enjeu, c'est comment mettre cela à l'écran, évidemment.
Tout l'enjeu, c'est de mettre ça à l'écran et de faire comprendre aussi aux téléspectateurs les difficultés auxquelles nous, on est confrontés dans cet univers. Parce que comme vous le dites, tout le monde est masqué dans cet univers.
C'est,
on a été sur des forums, les gens sont anonymes, donc on ne sait jamais qui est en face de nous.
Et puis tout le monde ment.
Tout le monde ment et en plus, il y a des connexions avec des services de renseignement qui savent mais parfaitement manipuler l'information. Donc c'est un chausse-trap journalistique absolu au départ auquel on se confronte. On le sait en partant et pour y répondre, eh ben c'est d'être le plus clair possible, d'être le plus transparent possible avec le téléspectateur.
Donc vous avez mis en scène vos échanges de textos avec votre productrice, vos échanges téléphoniques, tous les écueils, toutes les questions que vous vous posez au fur et à mesure de la fabrication de l'enquête.
Raconte au fur et à mesure comment on fait cette enquête. Et les écueils auxquels on est confronté, des fois, on peut pas aller plus loin.
Ouais.
Quand on est face à un hacker que l'on interviewe par Skype, qui veut pas qu'on le voit dans le monde physique, qui met un masque, on peut pas aller plus loin. Et ça, il faut qu'on le raconte. Et donc, on a trouvé cette forme de narration où on montre nos échanges au jour le jour avec Marina Ladoux, la productrice du film.
La productrice. Alors, l'Ukraine, justement, on va plonger directement dans le cœur de votre enquête. Un gouvernement pro-européen, un terrain de jeu idéal pour les hackers russes qui s'en donnent à cœur joie. L'Ukraine accuse d'ailleurs officiellement la Russie de se servir de ses hackers pour déstabiliser son pays. Récit d'une attaque à travers un simple logiciel de comptabilité. Un truc tout bête que toutes les entreprises se procurent.
Quand les utilisateurs ont téléchargé la mise à jour du logiciel, cela a permis aux hackers de pénétrer toutes ces structures ukrainiennes. Voici le schéma de l'attaque sur une seule entreprise. Ici, les hackers s'emparent d'un serveur, se propagent, interceptent les mots de passe et passent aux autres ordinateurs. Ensuite, ils s'emparent de toute l'infrastructure, prennent le contrôle des deux serveurs principaux, tout cela en 14 minutes top chrono. 14 minutes et c'est fini. C'est comme une opération militaire.
Voilà, ça me paraissait pas mal de commencer directement par ce que c'est qu'une attaque en réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un malware ?
Un malware, c'est une sorte de virus informatique qui permet de pénétrer dans votre ordinateur. Mmh. Voilà, et la guerre, elle se situe à ce niveau-là. C'est comment ces hackers réussissent à pénétrer votre ordinateur, vos systèmes informatiques. Et le malware, c'est un petit peu la clé qui vous permet de pénétrer à l'intérieur.
C'est cela, voilà. Alors, comment travaillent les hackers Parce que on continue de rester très pédagogique comme vous réussissez à le faire dans le film qu'on verra demain soir sur Arte. Un hacker repenti vous explique comment fonctionnent ces groupes de hackers. Parce que derrière un pseudonyme, en général, il y a un collectif. Et là, ça devient très intéressant.
Comment travaillent les hackers? C'est souvent par équipe de 5. Il y en a un qui pirate le site, un autre qui récupère les informations sur les serveurs, un autre est chargé de les analyser et de les systématiser, un quatrième les vend et un cinquième assure la couverture du groupe.
Voilà, derrière ces noms curieux, en réalité, il y a des groupes, Étienne Huvert, ce qui rend la chose encore plus complexe et passionnante.
Oui, parce qu'on ne travaille pas seul quand on est hacker, c'est des compétences très différentes. Il peut y avoir l'homme qui va réussir justement à fabriquer le malware, l'homme qui va l'acheter derrière, qui va être en mesure de l'utiliser. Et puis derrière, il y a toute l'infrastructure du groupe, il faut des moyens financiers, donc savoir blanchir de l'argent. Et ça, personne n'a cette compétence-là.
Donc ce sont des gangs, en réalité, plus ou moins.
Ce sont des gangs et c'est la particularité de la Russie, c'est qu'il y a ce terreau cybercriminel qui est très bien développé, qui fonctionne depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, quoi, avec ces groupes qui sont présents sur des forums et qui attaquent plutôt l'Occident. Pas trop la Russie, parce que la Russie, c'est le pays où on est et il faudrait pas avoir de problème avec les autorités. Mais derrière, l'Occident, oui, on attaque parce que c'est, ben voilà, d'un pays où dans l'imaginaire russe, les gens ont de l'argent. Et donc, c'est plutôt ces pays-là qu'on va attaquer en priorité.
Parce qu'évidemment, la première question que vous vous posez, c'est comment va-t-on les trouver? Comment va-t-on les contacter, ces hackers? Vous le dites, hein, il suffit pas d'aller dans le dark web où on peut trouver en effet des malwares vendus 10€ qui permettent d'hacker la carte bleue de papa et maman. Ceci dit, c'est une information. Je découvre qu'on peut, on peut hacker la carte bleue de papa et maman.
Faites attention.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous vous rendez donc sur des forums qui sont des forums numériques relativement ouverts, des forums russophones. Il faut parler russe. Vous allez vous faire aider pour cela. Vous allez vous faire aider d'un spécialiste dont vous protégez totalement l'identité,
la voix,
le nom. Il vous dit que même vivant en France, il a peur.
Oui, parce qu'il est russe.
Ouais.
Donc il sait qu'il peut être retrouvé par les services de renseignement.
Ouais.
Et il sait aussi que les hackers qu'il infiltre en les montrant à la télé, ils n'aiment pas être montrés. C'est vraiment un univers clandestin. Donc devenir comme ça, passer à la télé, c'est quelque chose qu'ils peuvent ne pas aimer du tout. Et la première cible qu'ils peuvent cibler, la première personne qu'ils vont cibler, c'est lui, c'est Igor, la personne qui nous a aidés à rentrer dans cet univers.
Alors sur ce forum russophone, on trouve de tout. Par exemple, sont à vendre toutes les données du ministère des Finances du Ghana, par exemple, sont à vendre toutes les données d'un État américain dont on a piraté les ordinateurs des juges, les ordinateurs du FBI, les ordinateurs de l'administration. Tout ça est à vendre. C'est une sorte de formidable bourse d'échange, d'offres et de la demande.
C'est surtout les accès à ces serveurs. C'est l'accès au serveur du service judiciaire d'un État américain.
Ouais.
C'est l'accès au serveur du ministère des Finances. Ils vont vendre ça et puis derrière, il y a des personnes qui vont acheter et qui, elles, vont pouvoir pénétrer ces serveurs. Et là, tout le monde est anonyme. Donc, le vendeur ne sait pas forcément à qui il vend. L'acheteur ne sait pas forcément... Le vendeur ne sait pas forcément à qui il vend.
Ouais.
Et du coup...
Et l'acheteur ne sait pas, évidemment, qui lui refourgue la cam. Il y a un homme qui va vous parler. Il porte un masque de clown avec un affreux rictus. Là, pour le coup, ça fonctionne très bien à l'image. Il y a le drapeau américain, il y a tout ce qu'il faut. Il a hacké des données...
C'est lui qui a choisi le masque.
C'est lui qui a choisi le masque.
Qui vous paye? Est-ce que vous savez qui vous demande ces informations?
Pas toujours. Je dispose rarement de ces informations parce que tout se fait de manière anonyme. Le client me contacte par Tor. Je ne connais que son adresse mail, qu'il n'utilise qu'une seule fois. C'est impossible à pister. Et à vrai dire, ça ne m'a jamais intéressé de savoir qui est le client.
Mais vous attaqueriez à des institutions russes?
Je l'ai déjà fait. Mais je l'ai fait pour moi.
Et lui, il vous dit d'ailleurs, j'ai une pièce remplie de disques durs, de données russes, mais ça bouge pas de là.
Ça bouge pas de là, et ça, c'est sans doute la petite garantie. C'est-à-dire que on attaque plutôt l'Occident parce qu'on sait qu'on n'aura pas de problème. Mais en même temps, il y a un jeu très subtil entre les services et les hackers. Et des fois, les services de renseignement russes, on l'a vu notamment avec le cas de Konstantin Kozlovski, dont on parle dans le film, ils peuvent venir et aller chercher ces hackers et les arrêter. Et le fait d'avoir sans doute ces petits disques durs avec des données russes peut sans doute permettre aussi à ce hacker de garantir une certaine sécurité à lui-même, mais aussi à son groupe.
On comprend très bien. Donc, évidemment, c'est là qu'on rentre dans le cœur du film et de toutes ces extensions possibles et imaginables. La Russie, pays extrêmement laxiste en matière de législation sur le sujet, extrêmement tolérant du moment, on l'a très bien compris, qu'on ne touche pas à ses intérêts à elle, qu'on attaque ailleurs et pas chez soi. Elle laisse faire. Et d'ailleurs, vous croisez l'ancien ministre des médias russe qui est aujourd'hui conseiller au numérique de Vladimir Poutine et qui vous dit « mais tout ça, ce ne sont que des failles ».
Oui.
Ce sont que des failles dans le droit international, des failles qu'on utilise.
Alors c'est formidable parce qu'on est dans un on le rencontre dans un forum de, oui. de hackers qui oui. s'appelle les Positive Hack Days, c'est tous oui. Les ans au mois de mai à Moscou, et c'est vraiment un endroit où les hackers d'un côté attaquent des infrastructures, c'est des maquettes, donc oui. ils attaquent ces maquettes, puis il y a ceux qui défendent. Et le ministre est là.
Tout
et
ça c'est pour de faux, hein. On joue.
On joue, on s'amuse, mais bon, en même temps, on rentre dans les services, dans les systèmes électriques, dans les compteurs électriques, on rentre dans les installations portuaires, etc. Et donc le jeu, il est aussi un entraînement réel. C'est des accès qui, derrière, peuvent permettre de faire des choses très importantes. Et le ministre, le conseiller de Poutine, vient sur ce forum-là et il nous dit « mais ici, tous les gens sont blancs, tous les gens ne sont là que pour le bien et que pour protéger nos infrastructures. »
Qu'est-ce que ça veut dire « tous les gens sont blancs » Étienne?
Alors, il y a deux sortes de hackers, d'une certaine manière. Il y a les hackers blancs, les white hats, ceux qui sont là
chapeau blanc.
Sécuriser les infrastructures. Et puis d'un autre côté, on parle des black hats, les méchants, ceux qui essayent de pénétrer à l'intérieur. Donc c'est deux communautés très différentes. Si vous voyez, les experts en sécurité informatique vont se dire white hat. Et évidemment, il peut y avoir une zone grise. Ça ne concerne pas tous les gens, mais il peut y avoir une partie des personnes qui font de la sécurité informatique parce qu'ils ont les compétences qui, à un moment donné, peuvent passer de l'autre côté, le soir, etc. C'est marginal, mais c'est aussi une partie qui explique ce jeu du chat et de la souris. Et du fait que parfois des gentils peuvent devenir méchants.
Voilà, alors ce qui est évidemment très intéressant, c'est que sur les forums clandestins que vous avez réussi à pénétrer dans ces marchés noirs là où tout ce qui circule est totalement illégal, et on trouve quoi ? On trouve les services secrets russes, on trouve le FSB qui est très présent, très aux aguets, témoignage d'un ancien agent ukrainien.
Les officiers du FSB sont eux-mêmes très qualifiés. Ils sont présents sur les forums depuis des années. Et ils connaissent ce gars qui peut créer un malware, un autre qui va s'occuper d'une diffusion très efficace du malware, un autre gars qui va gérer le financement. Un autre gars, un groupe, va infiltrer les réseaux pour répandre le malware. Au dernier niveau de cette opération, seul l'officier du FSB sait ce qui se déroule. Le pourquoi et comment tout ça fonctionne. Et c'est l'officier du FSB qui détient le bouton sur lequel appuyer pour déclencher l'attaque.
Voilà, vocabulaire totalement militaire, Étienne Huvert. Là, on sent bien qu'on rentre dans une règle, une guerre qui est sans règles. Une guerre, à laquelle participeraient toutes les démocraties occidentales, mais sans jamais le reconnaître officiellement.
Alors déjà, les Russes, là, on le comprend bien, et surtout, on comprend bien la difficulté de remonter avec des preuves matérielles irréfutables à l'agent du FSB, comme tout est anonyme, et que enquêter sur ces cyberattaques est très long. Remonter à la personne qui a donné l'ordre, c'est très compliqué. Et derrière, évidemment, il y a cet engrenage qui se met en place. Les Russes attaquent l'Occident et l'Occident doit répondre. Donc en France, ici...
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous ouvrez le film sur le témoignage d'un tout jeune hacker français, un type extrêmement doué, qui a été hyper vite repéré par les services secrets américains. Donc vous divulguez des mails du FBI qui proposent carrément de le recruter. Ça, il le reconnaît, il l'admet.
Il le recrute et il le recrute librement. On lui dit, si tu veux nous aider, tu es libre, de venir nous aider.
Et vous, et lui posez la question, et les services secrets français alors?
Là, il ne veut pas répondre.
Non, il ne veut pas répondre.
Alors, je ne sais pas quel est... Il y a sans doute un jeu avec les services. Il a dû être contacté à un moment ou un autre. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu nous dire précisément quel était son lien et de quelle manière les services secrets...
On sent même sa voix changer.
Oui, il a peur.
De ça, je ne peux pas parler. Voilà. Vous retournez en Ukraine. En Ukraine, c'est très intéressant, puisque donc même un ministre vous explique comment ils sont le terrain. Ils sont attaqués en permanence par les Russes. Et vous filmez une alliance clandestine de hackers qui sont là pour contre-attaquer et qui vous explique comment, en réalité, le gouvernement fait la même chose, le gouvernement ukrainien fait la même chose, va chercher ses propres cyber-pirates pour répondre aux attaques russes.
C'est ce qui est incroyable en Ukraine, c'est que c'est vraiment une ligne de front aujourd'hui de cette guerre avec la Russie. Et oui, sur le terrain cyber, oui, avant même le début de la guerre en Ukraine, il y avait une communauté russophone de hackers et de cyber-criminels. Et cette communauté, elle s'est fracturée en deux. Et du coup, d'accord, les Ukrainiens, eh ben, ce sont les mieux placés pour savoir qui est l'adversaire et pour l'attaquer. Et donc, ils ont commencé à se battre également contre les Russes. Et ils font ça avec de briquet de broc parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens.
Mais ce que vos témoins vous disent néanmoins, c'est qu'ils vous disent des petits groupes de hackers librement connectés les uns aux autres. Finalement, ça fonctionne beaucoup mieux qu'une unité centrale.
Exactement, parce que pour les hackers, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. L'État ukrainien ne peut pas forcément payer les hackers très bien. Ouais. Et finalement, ils trouvent souvent plus d'argent et des vrais salaires en travaillant dans le privé. Et c'est le soir qu'ils vont faire ce travail-là. C'est le soir qu'ils vont travailler et attaquer la Russie avec des moyens, comme je vous dis, de briquet de broc, des petits malwares qui leur permettent parfois d'aller chercher des mots de passe et des accès.
Mais là, on peut vraiment parler d'une nouvelle guerre, Étienne Huvert. Une guerre qui a complètement changé de règles, de terrain de jeu, mais qui a complètement changé de visage.
Mais même le numérique, c'est comme Uber avec les taxis, Airbnb avec les hôtels, et bien le numérique dans la guerre change considérablement les choses. Et aujourd'hui, en Ukraine, on se rend compte que les Russes, ils peuvent attaquer des centrales électriques, ils peuvent modifier ou s'attaquer au système électoral, ils peuvent s'attaquer au métro, au réseau de transport, tout cela sans même déplacer un seul soldat sur place.
Mais c'est là où c'est absolument, ça ouvre des portes passionnantes. On se dit, il vaut mieux le nucléaire. Au moins, il y a des traités de non-prolifération signés par les démocraties du monde entier. Là, il n'y a rien.
Parce que l'espace numérique, aujourd'hui, c'est virtuel. Et il n'y a aucun traité, donc tout est possible, on peut tout faire aujourd'hui. Et savoir ce qu'est une attaque dans ce monde numérique, une cyber-attaque, c'est extrêmement compliqué à définir. Et il y a des juristes qui travaillent là-dessus aujourd'hui, un peu partout. L'OTAN prend tout ça en considération. Ouais. Comment on fait aujourd'hui quand on est attaqué, quand un pays de l'OTAN est victime d'une cyberattaque pour qu'un autre pays aille l'aider. Vous voyez, tout ça, c'est des considérations qui sont en train d'être prises en compte et avec des juristes, des militaires qui essayent de normer tout ça.
La guerre est manifestement déjà enclenchée.
Ça va prendre un temps très long et surtout, tous les pays n'ont pas la volonté de régler les choses. Donc voilà, pour l'instant, ni les Russes, ni même les Américains totalement ne sont très pressés de mettre un petit peu à mal leur souveraineté dans le domaine cyber.
Vous avez cité tout à l'heure, Étienne Huvert, un cybercriminel russe, un jeune gars devenu hacker d'État, parce qu'on voit bien que les deux se mélangent. Seulement, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le raconter. On l'entend le jour de son procès.
Tous les gens qui sont ici avec moi ont été des exécutants des ordres du FSB qui nous a recrutés quand on était jeunes.
La loi ne vous permet pas d'aborder ces sujets ici.
Mais ce sont des questions qui préoccupent le monde entier. Et vous, la Russie, vous mentez au monde entier. Je vis dans un isolement total.
Jamais dénoncer le FSB. Le FSB peut vous recruter, mais il ne faut jamais le dénoncer.
Jamais dénoncer le FSB, jamais dénoncer l'État russe et les connexions qu'on peut avoir, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en Russie. Tout l'enjeu de Vladimir Poutine, c'est à la fois de montrer qu'il est puissant, de laisser comprendre à l'Occident que ces cyberattaques, il y a bien les Russes derrière, et ils cachent pas toutes leurs traces, ils cachent pas tous les signes, mais en même temps, il faut pas le smoking gun, entre guillemets, il faut pas qu'il y ait la preuve absolue de la cyberattaque, et donc à partir de ce moment-là, il faut surtout pas que les hackers dénoncent le pouvoir et dénoncent leurs liens avec les services de renseignement.
Je vous remercie beaucoup Étienne Huvert d'être venu nous raconter cette enquête passionnante dans l'instant M. Donc les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes, c'est sorti aux éditions Stock, et le film dont on vient de parler, Les Nouveaux Mercenaires, il est diffusé demain soir sur Arte en première partie de soirée. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebehi.
Salut Sonia.
Salut Ali.
Quelle mine merveilleuse avec belle mine.
Bah oui, j'ai un peu dormi, je me suis reposée.
On s'intéresse ce matin à l'alimentation du cerveau. Quels sont les nutriments bénéfiques pour notre cerveau? Quelle est l'assiette idéale pour nos neurones? Quels sont les aliments qui contribuent à améliorer notre mémoire, notre concentration, à ralentir notre déclin cognitif? Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Vous m'en citez un, juste un par exemple?
Oh, ben par exemple, l'avoine. L'avoine, c'est très bon. Ou les poissons gras.
Bien. Voilà. Mais les poissons gras, il paraît que c'est plein de mercure et tout ça.
Exactement.
Et ben voilà, d'une émission à l'autre, tout ça, c'est bourré de contradictions. Et nous, le consommateur, on est hyper inquiet. Merci Ali, à tout à l'heure. Il est 10h sur France Inter.